Je vais tout de suite donner la parole à Stefano Canneva, non sans l'avoir présenté brièvement. Et puis, je rappellerai les deux intervenants à la table et nous pourrons lancer la discussion sur les deux communications. Alors, Stefano vient de moins loin que la Suède. En l'occurrence, il a simplement passé la frontière. En l'occurrence, il est chercheur postdoctoral à l'université, au FNRS en Belgique, au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique, et plus précisément à l'université de Liège. Mais le parcours est beaucoup plus riche que ce simple constat. Et donc, Stefano a soutenu sa thèse de doctorat en 2011 à l'université de San Marino en Italie, après des séjours dans différentes universités. En France, en Allemagne, au Portugal, aux Pays-Bas, déjà en Belgique. La thèse qu'il a présentée à cette occasion, qui est devenue un livre aujourd'hui, portait sur le royaume ptolémaïque et plus particulièrement sur la légitimation religieuse de la dynastie, ce qui touche évidemment forcément à la question de la divinisation des souverains. Dans le cadre du projet postdoctoral qu'il poursuit à l'université de Liège, il a initié une recherche dont je vous lis l'intitulé en anglais « Practicalities of Hellenistic Ruler Cult », donc on voit toujours cette préoccupation pour le culte des souverains, « Towards the Semantic Markup of Ritual Action and its Social Underpinnings ». C'est un projet qui a tout un volet numérique et c'est peut-être la dernière chose que je veux dire à propos du parcours de Stefano, c'est qu'il a développé toute une série de compétences dans ce domaine des humanités numériques, notamment en participant au projet européen Europeana sur ces questions. Et pour vous montrer que ce parcours comme citoyen du monde, ou en tout cas de l'Europe, lui a donné envie de le transmettre à d'autres, il a aussi été en charge d'un programme Erasmus+. Alors je ne sais par contre pas à quelle université.
En fait, ce n'est pas, enfin, c'est un consortium de plusieurs institutions.
Voilà. Très bien. Donc.
Merci, Sébastien, pour cette belle introduction et pour l'invitation. Je parlerai d'une partie, disons, nouvelle de ma recherche qui concerne le lexique, et pas seulement les pratiques des honneurs pour les chefs politiques et les grands bienfaiteurs de l'époque hellénistique, même si ici on va aborder en grande partie une période qui date de la période impériale ou en reprenant la catégorie qui a été lancée récemment par Angelos Kaniotis de « Long Hellenistic Age », hein, donc entre le Alexandre et Adrien, disons. La recherche récente a renversé, ou au moins fortement nuancé, une thèse longtemps acceptée, selon laquelle le culte héroïque aurait connu une phase de déclin dans le cadre de la religion grecque aux époques hellénistiques et romaines. Au contraire, les textes littéraires et documentaires montrent que la sphère sémantique du « héros » continua d'exercer une fonction importante dans la vie religieuse et culturelle des communautés grecques pendant toute l'Antiquité. Le culte pratiqué pour les héros anciens demeure attesté tout au long des périodes hellénistiques et impériales. En particulier, pendant les premiers siècles de notre ère, on constate une attention croissante pour ces traditions, considérées comme des facteurs identitaires fondamentaux dans la vie des communautés civiques. Et c'est également le cas sur le plan plus large de l'identité hellénique au sein de l'Empire. À côté de cette continuité, la période entre le IIIe siècle avant et le IIIe après Jésus-Christ témoigne aussi d'un élargissement considérable du domaine d'implication de la sphère sémantique du héros au contexte des honneurs pour les défunts sur le plan tant public que privé. Dans ce deuxième volet de notre après-midi consacré aux héros dans la culture et la religion grecque, je me concentrerai précisément sur cet aspect par le biais d'une étude lexicale ciblée. Les contextes d'utilisation du verbe aferoizo et du substantif dérivé aferoismos. Je commencerai par donner une traduction opératoire de ces deux mots, faire de quelqu'un un héros ou consacrer un lieu à un héros pour aferoizo et héroïsation pour aferoismos. Les nuances de cette définition deviendra plus évidente au cours de la discussion des sources. Le point de vue que j'ai choisi nous permettra de discuter dans quel contexte est rituel et discursif, et pourquoi un acteur, une institution ou un individu, pouvait s'attribuer l'autorité d'accorder à une personne tierce défunte ou à lui-même l'honneur d'être reconnu comme un nouveau membre de la communauté des héros. À la croisée entre l'histoire des mots, l'histoire religieuse, sociale et juridique, il s'agira de mettre en valeur la dimension délibérative du verbe aphéroïde. J'entends par là son lien intime avec la dimension performative du décret, du testament, de la dédicace, à travers lesquels l'acteur sanctionne l'autorité de son initiative honorifique. La documentation à laquelle je ferai référence comprend les quelques 80 inscriptions que j'ai collectées et qui recourent au verbe aphéroïdzo, plus en texte hellénistique d'Amorgos, utilisant le mot dérivé aphéroïsmos. Ce corpus a été en grande partie établi par les membres d'un projet de recherche mené à Padoue sur les attestations des mots liés à héros dans la documentation épigraphique grecque. Je remercie d'ailleurs mes collègues de m'avoir permis d'utiliser les résultats de leur travail avant leur mise en ligne sur le site du département du patrimoine culturel de l'Université de Padoue. Bien entendu, quelques attestations pourraient avoir échappé à cet effort de catalogage. Toutefois, le dépouillement de plusieurs milliers d'inscriptions disponibles dans des publications numériques et papier nous permettra de tirer quelques considérations générales utiles à propos des contextes chronologiques, géographiques et sociaux dans lesquels furent employés les mots faisant l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Je signale d'ailleurs que parallèlement aux dossiers identifiés dans les sources épigraphiques, une recherche similaire menée dans la documentation littéraire à partir du Thesaurus Linguae Graecae n'a donné aucune attestation ni de notre verbe ni du substantif dérivé. On le verra, cette différence en termes de support et de médias n'est probablement pas sans intérêt par rapport à la compréhension de l'agenda des acteurs qui ont choisi d'utiliser le verbe aphéroïdzo et le mot dérivé aphéroïsmos. Le diagramme que je vous montre vous permet de voir une distribution très peu homogène des attestations épigraphiques. Le dossier de l'île de Terra occupe plus de trois quarts du total, témoignant d'un véritable habitus épigraphique local qui intéresse aussi l'île voisine de Anaphé. Les noms et les formules employées dans les textes plus détaillés, ainsi que les indices paléographiques offerts par les inscriptions, témoignent d'une tradition répandue à Terra au 1er siècle de notre ère, 1er, 3e siècle. J'analyserai ce dossier en dernier cas, pour des raisons à la fois chronologiques et thématiques, car les questions soulevées par ces documents nous permettront de synthétiser plusieurs aspects de la discussion. Donc, commençons par le dossier hellénistique qui intéresse trois lieux, Athènes, l'île d'Amorgos et la petite ville de Itanos dans l'est de la Crète. Le document le plus ancien du dossier vient du Pirée et est daté de 176-15 avant Jésus-Christ. Il s'agit de la délibération d'une association privée unissant des membres de familles de l'élite autour du culte de Dionysos. Les Dionysiastai, comme se désignent eux-mêmes les membres de l'association, approuvent par ce décret l'héroïsation de leur prêtre, trésorier et bienfaiteur Dionysios de Marathon, récemment décédé. Au cours de sa vie, Dionysios avait géré l'administration du culte, financé la réalisation de la statue de Dionysos, offert à l'association son lieu de réunion pour le célébrer et un sacrifice annuel. D'où la décision, et je cite, que les membres de l'association fassent en sorte que Dionysios soit héroïsé et littéralement consacré, son image consacrée, dans le sanctuaire près du dieu, où se trouve aussi celle de son père, afin qu'il existe un très beau souvenir de lui pour toujours. Le décret des Dionysiastai s'inscrit dans la riche documentation hellénistique, témoignant de l'appropriation par les élites d'une tradition d'initiative honorifique longuement limitée à des acteurs institutionnels, à savoir la possibilité de reconnaître à des bienfaiteurs ou à d'autres catégories jouissant d'un prestige particulier des honneurs funéraires signalant que les défunts ainsi honorés partagent un statut à la fois social et rituel différent de celui des autres mortels. Les sources écrites signalent cette différence au niveau linguistique en déployant des termes appartenant à la sphère sémantique des héros traditionnels, du culte et de l'épopée. La portée rituelle de cette différence ne nous est pas toujours connue, car dans certains cas seulement, en texte historique ou en règlement rituel, décrivent ou prescrivent les détails cultuels de ces honneurs. Là où notre documentation nous permet d'approcher ce contenu rituel, nous pouvons observer que la diffusion d'honneurs héroïques privés ne remplace pas la tradition civique d'accorder des honneurs héroïques publics, mais la côtoie en introduisant un changement dans l'échelle de ces honneurs. En d'autres mots, pour être adapté aux exigences et aux possibilités financières de petits groupes, dans des contextes privés, les lieux associés aux honneurs héroïques présentent souvent un degré de monumentalisation réduit par rapport aux honneurs civiques. Il en va de même pour le contenu rituel des honneurs. Comme le montre le décret des Dionysastai, dans les prescriptions d'associations privées pratiquant des honneurs héroïques, il est difficile de saisir, et souvent difficile, de saisir la spécificité rituelle de ces cultes par rapport aux honneurs funéraires accordés à d'autres membres de l'élite, pour lesquels aucune marque linguistique d'héroïsation n'est attestée, et c'est ce que Gunnelestre a aussi mentionné. Les sources textuelles émanant d'acteurs particuliers nous posent dès lors des problèmes herméneutiques comparables à ceux soulevés par la question des différences qu'il est possible d'identifier sur le plan archéologique entre un héroïne et un, pour ainsi dire, simple tombeau monumental de l'époque hellénistique ou impériale. La situation change, au moins en partie, quand on considère des fondations cultuelles héroïques associées à la vie publique d'une communauté. Ici, le lieu dédié au culte est situé dans un espace public et présente habituellement un certain degré de monumentalité. Quant aux acteurs du rite, ceux-ci relèvent d'une partie de la population plus large qu'une famille ou un groupe fermé de familles. Ils peuvent en effet regrouper les membres dans sous-ensembles du corps civique, par exemple le gymnase, ou la population dans sa totalité. Avant d'aborder ce genre de document, une prémisse est nécessaire à propos de la forte porosité entre initiative civique et initiative des élites dans les polis grecques des périodes hellénistiques et impériales. À partir de la basse époque hellénistique, donc autour du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, la vie des cités se caractérise par l'ascension d'une classe de familles économiquement et politiquement puissantes, capable de s'approprier la vie administrative, sociale et culturelle de la polis. Dans ce cadre, les stratégies d'héroïsation mises en place par les familles de l'élite peuvent entrer en relation directe avec l'administration civique. Alors, un document de la ville d'Aigiale à Morgos, daté par l'écriture au IIe siècle avant Jésus-Christ, nous permet d'exposer cette situation en cas concret. Le décret, issu de la cité, nous informe sur l'interaction entre l'initiative financière privée et l'acceptation et administration civique du culte héroïque d'Aleximakos. Aleximakos était un jeune qui avait perdu la vie au cours de sa période de formation éphébique, donc entre les 18 et 20 ans. L'inscription était affichée sur une stèle à l'intérieur du gymnase de la ville où Aleximakos s'entraînait avec ses camarades. Elle nous informe sur la fondation cultuelle établie par le père du jeune homme, Critolaos, pour régler les honneurs cultuels pour son fils et leur assurer une base financière durable. Les honneurs pour Aleximakos comprennent l'érection d'un portrait du défunt héroïsé dans le gymnase, utilisé comme statue cultuelle lors des offrandes qui lui sont adressées par ceux qui fréquentent cette institution. Une fête est aussi introduite, lors de laquelle une série d'offrandes est accomplie, et les membres du gymnase organiseront un concours avec toutes les compétitions sportives prévues pour les jeunes Paides et les adultes Andres, par la loi gymnasiarchique d'Aghiale, à la seule exception du Pancras. En effet, Aleximakos sera toujours considéré le vainqueur virtuel de cette spécialité. Le texte décrit ensuite dans le détail les mécanismes du financement du culte. Le capital de la fondation privée sera majoré grâce à un système de prêts à intérêt sous la supervision d'une autorité publique. De manière intéressante, la mention de l'héroïsation d'Aleximakos apparaît dans l'intitulé du décret dans un contexte qui souligne la valeur légale de cette délibération. Donc je lis la traduction. Sous l'arconta de quelqu'un, le jour perdu du mois d'Apaturion, Architelès, fils de Parménion, Cratésilochos, fils d'Egias, Léontéus, fils d'Egias, ayant été élu par le peuple selon le décret, afin qu'il propose la loi réglant le prêt à intérêt de l'argent donné en fondation par Critolaos, fils d'Alcimédon, ainsi que la fête publique et le concours, et qu'ils accomplissent toutes les autres affaires, ils ont mis par écrit la, je traduirai la délibération de l'héroïsation, mais littéralement ils ont mis par écrit l'héroïsation d'Aleximachos, fils de Critolaos, en conformité avec le vote du peuple et avec la fondation mise à disposition à ce propos par Critolaos, à savoir 10 000 drachmes pour les activités suivantes, et suit la description des rituels et des honneurs. Le niveau d'entrelacement entre initiative publique et privée est tout aussi évident dans une épigramme funéraire d'Itanos, une petite ville de la Crète orientale, datée par l'écriture du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, le texte était inscrit sur une plaque de calcaire de remploi. Il était probablement affiché sur le mur de la chapelle cultuelle qui constituait le monument funéraire des trois jeunes appartenant à l'aristocratie de la cité. Plusieurs éléments nous permettent de rapprocher ce document de celui d'Aigialé, même si on peut signaler aussi des différences significatives. Notamment, l'attention du texte crétois pour les bienfaits passés du père des jeunes gens héroïsés, est contrebalancée par un manque de détails sur l'activité rituelle et le mécanisme de financement des honneurs. La diversité de ces points de vue dépend au moins en partie des perspectives mises en valeur par deux genres textuels aussi différents qu'un décret et une épigramme. Je cite la traduction de l'épigramme. « Ici, nous sommes ensevelis, ensemble, trois jeunes du même sang, des héros purs, Damon, Phaidon et Ammonios, des fils puissants. Salut, doux père Ammonios. À toute occasion, jouissant de ta bonne renommée, depuis toujours, de joie, tu nous laissais sans voix et tu accomplissais les sacrifices à tous les dieux et à tes frais, entretenant tout le monde au banquet pour les groupes des jeunes gens et ensuite pour les mariages, en acquérant une brillante réputation, partageant joyeusement les plaisirs de la fête. Maintenant, nous recevons de la patrie, en signe de gratitude, une chapelle et un bois sacré pur, littéralement héroïsé, donc consacré aux héros. Par décret public, nous sommes devenus des héros purs. Soyez courageux, parents excellents, et cessez de vous tourmenter. Toi aussi, mère illustre parmi les illustres, accomplis les offrandes de miel et d'encens. Car ces honneurs sont offerts par la patrie à Minos et à tous les héros après Minos. Tous les passages du texte ne sont pas faciles à comprendre en raison de la langue utilisée, qui est un pastiche poétique combinant un fond de koiné avec des expressions rares et des formes épicoriques crétoises. Ce dernier détail, qui présente des parallèles dans la documentation contemporaine d'Itanos, se combine avec la mention finale de Minos pour montrer l'intérêt nourri par l'élite de cette ville face à tradition identitaire dorienne et insulaire. Ce qu'on comprend bien est que le monument funéraire des trois jeunes prend la forme d'une chapelle cultuelle située au milieu d'un bois sacré, probablement localisée dans la périphérie nord-ouest de la cité où se trouvaient les nécropoles. Au moyen d'un décret d'honneur posthume, évoqué par l'épigramme, la cité reconnaît aux trois jeunes une pureté qui relève de leur statut héroïque en le distinguant ainsi des autres morts. À la basse époque hellénistique, l'entrelacement entre la dimension privée et la dimension publique des honneurs pour les défunts devient particulièrement étroit dans la mesure où le statut héroïque peut être accordé non seulement à des grands bienfaiteurs civiques, mais aussi à des jeunes membres de leur famille. Comme le fils de Critolaos, les trois fils d'Ammonios ne sont pas célébrés pour des mérites personnels envers la cité. Cependant, c'est en les honorant de manière posthume et comme pour compenser la douleur de la famille pour leur perte, que la cité manifeste sa reconnaissance à l'égard de leur père en proposant ou en acceptant une procédure d'héroïsation. La consolation aux parents est d'ailleurs destinée à devenir un élément rhétorique commun dans les décrets honorifiques à partir de cette période et encore plus à l'époque impériale. À ce propos, les savants modernes ont parlé d'un sous-genre formé par les décrets de consolation. Ces décrets s'accompagnent souvent de l'attribution d'un statut héroïque aux défunts. Pour la période impériale, Les dossiers d'Asie mineure, en particulier celui d'Aphrodisias Ankari et de Thrace, peuvent être traités ensemble pour des raisons tant chronologiques que de contenu. Ils datent des premiers siècles de notre époque, 1er-2e pour les documents Thrace, 2e-3e pour ceux d'Aphrodisias, et témoignent d'une initiative privée par laquelle en particulier attribue un statut héroïque au tombeau familial pour en assurer l'inviolabilité et l'exclusivité pour les membres de la famille. Ici, nous avons un exemple particulièrement important de ce dossier. Le dossier le plus riche et le plus informatif se compose de 5 délibérations testamentaires concernant la gestion des monuments funéraires de famille de l'élite civique, Aphrodisias. Au-delà des différences de détails, tous les textes illustrent la même procédure qui est clairement évoquée par le texte d'Aphrodisias. Ici, numéro 524. Ici, vous le trouvez dans un contexte de remploi, où il avait été replacé à l'époque ancienne, où elle a été découvert. Donc, Aurelius Eumachos, fils d'Apellas de Zenon, d'Eudamos est repris pour Aurelius Eumachos, a construit cet autel et le cercueil qui est placé au-dessus. Dans ce cercueil seront ensevelis, suit une liste de membres de la famille, dans les sépultures situées en bas seront ensevelis ceux qu'Eumachos voudra et auxquels il assignera une place à l'intérieur et seulement ses descendants. Aucune autre personne ne sera autorisée à ensevelir quelqu'un dans le cercueil, ni à le déplacer, ni à céder l'autel ou la sépulture à quelqu'un d'autre que lui, Eumachos évidemment, ni à trouver n'importe quelle manière d'aliéner ses propriétés sous aucun prétexte. Après l'inhumation de toutes les personnes mentionnées ci-dessous, le monument sera déclaré consacré aux héros, littéralement héroïsé. Et si quelqu'un s'apprête à ensevelir quelqu'un dans le cercueil ou dans la sépulture en bas, ou à déplacer le cercueil ou à faire quelque chose de contraire à ce qui a été écrit ci-dessus, que celui qui a accompli ou s'apprête à accomplir ce geste soit considéré comme coupable d'avoir violé une tombe, impie et qu'il soit maudit. Que celui qui accomplit ou s'apprête à accomplir ce geste paye au trésorier du peuple romain une amende de pas moins de 10 000 deniers d'argent. Que le héroon soit déclaré consacré au héros, littéralement héroïsé, après l'inhumation de toutes les personnes citées ci-dessus. La copie de l'inscription a été déposée dans l'archive des propriétés, suit la date. Dans les documents du dossier d'Aphrodisias, le verbe « aphéroïdzo » est utilisé de manière formulaire dans un contexte proprement légal. Il s'agit d'une déclaration testamentaire qui attribue au monument funéraire d'une famille le droit à l'inviolabilité et à l'exclusivité qui conviennent à un lieu de culte héroïque. Cette délibération, probablement accompagnée du paiement d'une somme d'argent de la part du chef de la famille, implique l'intervention de l'État en cas d'infraction des règlements d'exclusivité et d'inviolabilité du tombeau monumental. Situation comparable peut être identifiée dans les textes provenant de la ville Thrace de Philippopolis. Pourtant, dans ces cas, le texte beaucoup plus succinct rend notre interprétation plus complexe. Dans le premier cas, nous avons une stèle en marbre de dimensions assez importantes, avec une double décoration, une double inscription. La première inscription, qui probablement est postérieure, a été inscrite sur la stèle de manière postérieure, dit « Bitus, fils de Dolès, dans ses pleines capacités physiques et mentales, s'est héroïsé ». Au-dessus du relief principal, « Dolès, fils de Bitus », a érigé pour lui-même, pour son épouse Doris, fille de Tarsos, et pour sa deuxième épouse Titua, fille de Cronides, en souvenir. Dans un autre document, nous avons ici une épistyle en calcaire, nous avons la partie finale d'un nom, Ophinos, dans ses pleines capacités physiques et mentales, s'est héroïsé. Bonne chance, cher passant. Et encore, sur un autel en marbre, nous avons la mention d'un certain Théodosios qui a héroïsé son père Théodosios, fils de Gaïos, qui avait bien vécu 50 ans. Alors, une première différence avec le dossier d'Aphrodisias est qu'ici, l'objet du verbe aphéroïdzo n'est pas le tombeau, mais la personne qui est ensevelie. Deux fois, le verbe est utilisé dans un cadre qu'on peut définir de auto-héroïsation. Mais la différence la plus évidente est que la pierre ne contient pas le texte complet de la délibération testamentaire. Celle-ci est seulement évoquée par l'expression « zon kai phronon », une formule typique des testaments de Philippopolis. Aussi, les inscriptions funéraires habituelles renvoient aussi la formule de salutation à l'égard d'un passant potentiel dans le texte numéro 1383, donc « Bonne chance, cher passant ». Et pourtant, ces textes ne répondent pas exclusivement au but de commémorer le défunt enseveli dans le tombeau. La présence du verbe « aphéroïdes » suggère que, malgré sa brièveté, le texte vise à évoquer une décision testamentaire ayant une valeur légale. Cette hypothèse est confirmée par la comparaison avec un texte inscrit sur un fragment de sarcophage de Philippopolis. Le texte ne contient pas le verbe aphéroïdes, mais en offre une paraphrase dans un cadre juridique tout à fait similaire à celui qu'on connaît à Aphrodisias. Donc, Pompeius Saturninus, membre de la Gerousia, du Sénat de Philippopolis, dans ses pleines capacités physiques et mentales, a édifié cette chapelle au dieu souterrain, qu'on traduit comme Dies Manibus, et le sarcophage situé à l'intérieur pour lui-même et pour son épouse Ulpia Macrina. Je demande qu'il soit inviolable et qu'il soit interdit de les revendre, qu'à personne il ne soit permis, ni de mon vivant, ni après ma mort, de déposer un autre corps dans le sarcophage ou dans la chapelle. Dans le cas contraire, celui-ci versera à titre d'amende 42 deniers au fond le plus sacré et encore 502 deniers à la cité, 501 deniers à celui qui intentera le procès et à l'accusateur. Des membres de l'élite civique d'Aphrodisias et Philippopolis eurent recours à l'octroi du statut héroïque au tombeau familial et aux personnes qui étaient ensevelies pour leur assurer une protection à la fois religieuse et légale contre les risques de vente, de réutilisation ou de destruction du monument. Le lien entre cette initiative privée et la supervision de l'État apparaît systématiquement dans les textes d'Aphrodisias, tandis qu'à Philippopolis, un seul texte nous permet d'étudier le mécanisme administratif qui assure la protection du monument. Néanmoins, même dans les documents plus succincts, la formule testamentaire « zon kai phronon » et le verbe « aphéroïdzo » auraient suffi pour qu'une personne de l'époque comprenne que l'inscription funéraire renvoyait à l'autorité d'un document légal déposé dans un archive publique. Prenons en termes de comparaison contemporain, évidemment, c'est juste de souligner cet aspect de la possibilité de lire, de comprendre le sous-texte, même si on ne peut lire qu'un texte très succinct. Alors, lors de la préparation de cette communication, j'ai visité le cimetière monumental d'Ixelles à Bruxelles pour tirer une forme d'inspiration dans l'étude de mon dossier. Alors, le cimetière abritait de nombreux tombeaux familiaux de la deuxième moitié du XXe siècle, et une formule sur une tombe a attiré mon attention, car elle annonçait que l'espace occupé par le monument faisait l'objet d'une concession à perpétuité. Alors, le choix d'afficher ce texte est intéressant. D'un côté, il témoigne d'une initiative honorifique, car il place le monument hors de la logique du renouvellement de la concession à laquelle sont évidemment soumises les autres tombes. D'un autre côté, malgré la concession du texte, il était clair pour moi, en tant que spectateur contemporain, que ce texte impliquait l'existence d'un document archivé assurant l'autorité de l'inscription que j'étais en train de lire sur la tombe. Or, évidemment, il y a des grandes différences parce que l'autorité ici n'est pas à Ixelles n'est pas l'autorité de l'État et il n'y a aucune référence à la sainteté du lieu comme on a, par exemple, dans les textes où on parle de héroïsation du tombeau. Pourtant, le texte, autant pour succinct qu'il soit, peut évoquer l'existence d'un texte archivé. La comparaison entre le dossier de Philippopolis et celui d'Aphrodisias nous permet aussi de comprendre que le verbe aphéroïdzo synthétise d'un mot tout un éventail de privilèges pour le tombeau et les personnes ensevelies à l'intérieur. Sacralité, inviolabilité, inaliénabilité du monument. Le vocabulaire légal s'empare donc d'un terme emprunté à la sphère culturelle pour communiquer un message clair au public. Pour confirmer que l'attribution d'un statut héroïque répond au but d'assurer l'inviolabilité d'un monument funéraire, nous pouvons citer encore un autre texte, provenant cette fois de l'Odyssée du Lycos, en Carie. Aurelius Heliodorus, affranchi impérial, a fait réparer l'Héron pour lui, pour sa fille Aurelia Heliodora, dite Polychronia, pour sa femme Aurelia Flavia et pour ses affranchis, laquelle Héliodore, dite Polychronia, a consacré à la tribu ionienne des membres du conseil, à titre de fonds de couronne, une somme de 1000 deniers pour que l'on couronne sa tombe chaque année la veille des calendes de novembre, le 18e jour du troisième mois. Personne d'autre n'a le droit d'être enterré dans le Héron. Sinon, le contrevenant à ces prescriptions versera à l'Erarium Populi Romani 2500 deniers. Copie de cela a été déposée dans les archives, faite à la Odyssée sur la prêtrise de Tryphon. Revenons maintenant au dossier de Théra et d'Anaphé pour quelques considérations finales. Les documents de ces deux îles, datés de l'époque impériale, sont inscrits sur des autels cylindriques, qui sont très communs à Théra, Kos et Rhodes, ou sur des stèles funéraires. Ils se répartissent de manière inégale entre textes publics et privés, en fonction des acteurs prenant l'initiative de la héroïsation du défunt. Alors, presque trois quarts des textes de Théra sont des documents privés témoignant d'initiatives prises à l'intérieur d'une famille. L'époux a héroïsé l'épouse et vice-versa, un fils a héroïsé ses parents ou inversement, le propriétaire a fait de même avec son esclave. En revanche, 14 documents publics complets témoignent de l'initiative des institutions de la cité. Selon les deux formules qu'il est possible d'employer, il s'agit de l'Assemblée du peuple ou du Conseil accompagné par le peuple. La plupart des attestations publiques concernent des hommes, mais 5 sont associées à des femmes qui devaient appartenir aux familles de l'élite locale. Dans le dossier de Théra, l'utilisation du verbe aphéroïdzo constitue l'une des solutions possibles pour placer un monument funéraire sous la protection évoquée par la sphère sémantique du héros. L'autre formule implique l'utilisation des mots héros ou hérossa, héroïssa, qui, quant à eux, soulignent l'effet d'une délibération, tandis que le verbe aphéroïdzo met l'accent sur le processus d'héroïsation. Une formule justificative évoque fréquemment la raison de cet honneur, généralement de manière assez vague. On célèbre la vertu, la rectitude et sagesse de la personne honorée. Quelquefois, il est fait mention de son attitude évergétique envers la cité. Deux documents pour un prêtre d'Apollon Carneios présentent la formule aphéroixe kai etimase, héroïser et honorer, qui souligne de manière particulière la dimension de la dimension honorifique de l'initiative prise par les institutions. Dans ces deux inscriptions, la mention de l'héroïsation est accompagnée par une épigramme célébrant le lien généalogique entre la personne honorée et les héros de l'épopée, selon une pratique commune pour les élites grecques de la période impériale. Donc, je lis la traduction. Le peuple a héroïsé et honoré Admète, fils de Théocleides, prêtre d'Apollon Carneios par héritage, pour sa grande vertu et sa sagesse. Et ici commence l'épigramme. Non seulement nous tirons fierté des rois de Sparte, mais moi, je fus aussi de sang thessalien par mes ancêtres. D'Admète, je conserve la gloire et partage fièrement le nom. Et donc, si la Moira funeste m'a séparé à 28 ans de mon père Théocleides, qu'il souffre comme Pélée et comme mon ancêtre Phérès. Il n'a vraiment aucune source de réconfort. Sans doute, il aurait accepté de mourir deux fois lui-même à condition de me laisser vivre. Si les documents privés ne tirent pas leur autorité d'une initiative institutionnelle, ils partagent pourtant la même logique, comme le montre d'ailleurs le recours fréquent à la pratique d'ajouter une formule de justification de l'honneur accordé pour des membres de la famille comme dans les textes publics. En d'autres mots, face au choix d'accorder un honneur particulier au défunt, la famille attribue à son initiative dédicatoire la même autorité délibérative que le feraient les institutions de la cité. Cette tendance du cadre privé à reproduire les procédures honorifiques de la cité dans les honneurs funéraires au sein de la famille trouve de nombreux parallèles dans le monde hellénistique et impérial. Si l'hypothèse que j'ai avancée pour les dossiers d'Aphrodisias et de Philippopolis est correcte, on pourrait expliquer les documents de Théra d'une manière similaire. Le recours au verbe aphéroïdzo dans des textes relevant du cadre familial renverrait à une initiative privée, reproduisant le vocabulaire par lequel les institutions civiques reconnaissaient, grâce à l'attribution du statut héroïque, une protection particulière aux monuments funéraires d'une personne ou d'une famille. Le dossier de Terra ne nous offre malheureusement pas de documents plus longs qui puissent clarifier le fonctionnement administratif et juridique de cette démarche. En règle générale, pourtant, on est tenté de penser que, comme à Aphrodisias et à Philippopolis, en particulier, pouvait rendre sa demande d'inviolabilité officielle au moyen de l'enregistrement d'un document dans une archive publique. Les cas dont l'inscription attribue l'initiative aux institutions de l'État se justifieraient dès lors dans le sens que ces institutions ont pris en charge les frais de cette procédure. Il me reste à conclure sur deux observations générales. Tout d'abord, à la lumière de notre discussion, il me semble que le manque d'attestation du verbe « aphéroïdzo » dans les sources littéraires pourrait s'expliquer par deux arguments. D'une part, la portée géographiquement limitée de cet habitus épigraphique. D'autre part, la connotation proprement administrative et procédurale du verbe qui le placerait au-delà des intérêts plutôt cultuels et culturels que nous trouvons dans les sources littéraires qui discutent le cas des cultes héroïques. La deuxième observation concerne un détail fondamental par lequel les trois attestations de la période hellénistique peuvent être clairement distinguées de celles plus nombreuses de l'époque impériale. À la différence des textes hellénistiques, la documentation impériale ne contient aucune indication sur le contenu des honneurs funéraires, contenu rituel, pratiqué par les familles des défunts héroïsés. Apparemment, ni les supports ni les textes ne sont pensés pour manifester la spécificité de ces morts sur le plan rituel, qui nous échappe dès lors entièrement. Au-delà de la commémoration des noms et éventuellement des mérites des personnes honorées, le prestige évoqué par la sphère sémantique de l'héroïsation se joue entièrement dans le rapport au statut de la tombe en tant que lieu sacré et inviolable. Cette observation est peut-être la contribution la plus importante de ce dossier à la discussion des évolutions du culte héroïque aux périodes hellénistiques et impériales. Elle nous invite tout d'abord à ne pas traiter ces deux époques comme une unité indistincte et figée. Ensuite, elle souligne encore une fois la nécessité de nous libérer de la catégorie de déclin lorsque nous étudions les changements diachroniques d'un phénomène aussi complexe que le culte héroïque grec. L'étude du dossier concernant le verbe « aphéroïdzo » montre qu'une traduction du mot « héros » en tant qu'euphémisme désignant le défunt, comme on a souvent proposé, nous amènerait à banaliser une tradition culturelle stratifiée et complexe. Tous les défunts ne deviennent pas des héros. Même dans des contextes sociaux et culturels profondément transformés, le changement de statut qui permet à quelqu'un de devenir un héros continue d'être un phénomène limité. C'est en étudiant qui, pourquoi et comment quelqu'un pouvait attribuer ce statut à une personne tierce ou à lui-même qu'on pourra affiner progressivement notre compréhension des évolutions de l'un des éléments les plus spécifiques et les plus durables du politisme grec. J'espère avoir contribué à cet effort et à cette tâche à travers le petit cas d'étude offert par le verbe aphéroïdzo. Merci.